dans notre chapelle du Carmel d'Angers, chapelle qui n'est pas aussi âgée que la fondation, comme vous pouvez le remarquer. Voilà, donc je suis très heureuse de vous accueillir et puis d'accueillir nos invités que va vous présenter notre animateur Yves Durand, que beaucoup d'entre vous connaissent, voilà, qui est un spécialiste de la presse écrite, mais nous avons pensé qu'il avait tout ce qu'il fallait pour aussi animer cette table ronde. Voilà, donc on le remercie beaucoup. Donc je vous passe la parole. D'accord.
Voilà.
Merci.
Je vais faire la présentation debout, puis je me serai après. Est-ce que vous entendez bien à l'entrée de l'église? Non, alors je m'assois. Merci de nous accueillir chez vous, sœur Charlotte-Marie, et vous aussi, mes sœurs. Je vais assumer un rôle ingrat, puisqu'il s'agit d'être le maître des horloges. Ce n'est jamais facile, ce n'est pas très populaire, mais je vais essayer de le faire tout en respectant votre travail. Je commence les présentations par vous, Yann. Yann Gourtet, vous venez de Caen et vous êtes historien et archiviste des Carmels. Votre intérêt pour le Carmel est né très tôt avec votre découverte des écrits de Thérèse de Lisieux. Vous avez consacré un peu plus tard votre thèse de doctorat à la sœur aînée justement de Sainte Thérèse de Lisieux. C'était Pauline Martin, vous vous rappelez, qui en religion s'appelait Mère Agnès de Jésus. Votre thèse de doctorat a été soutenue à l'université de Brest et vous en avez tiré un livre. Je ne sais pas s'il est en vente ici, mais il faudra le demander. Un livre sous le titre « L'autre ouragan de gloire ». Comme archiviste, vous travaillez pour la branche féminine du Carmel de France, et particulièrement sur les fonds des monastères qui ont dû fermer leurs portes. Il y en a une centaine en France depuis un peu plus d'un demi-siècle, oui. Et puis vous répondez aussi, heureusement, aux monastères qui continuent d'exister, une petite dizaine, dont celui d'Angers. Une cinquantaine, pardon. François Comte, vous êtes conservateur en chef du patrimoine, et vous travaillez pour la ville d'Angers depuis plus de 40 ans, et vous êtes en charge aujourd'hui des collections à la fois archéologiques, historiques et iconographiques angevines au musée d'Angers. Ce soir, ce n'est pas seulement en historien, en archéologue que vous intervenez, mais aussi en familier du Carmel, puisque vous êtes né à Lisieux et que votre grand-père dirigeait les collection, enfin diriger l'office central qui est l'éditeur du Carmel de Lisieux. Vous vous êtes orienté très tôt vers l'histoire des établissements religieux et hospitaliers d'Angers. On vous doit de nombreux articles, de nombreuses participations à des livres et à des colloques. Et la Doutre aura constitué l'un de vos points d'attention particuliers, qu'il s'agisse de l'église Saint-Laurent, qu'il s'agisse des Augustins ou encore de la chapelle Saint-Lazare et naturellement d'hôpital Saint-Jean. Et puis on vous doit, dernier clin d'œil vis-à-vis du Carmel, on vous doit d'avoir identifié un grand tableau du XVIIIe siècle qui se trouvait dans une réserve des musées d'Angers et vous avez découvert qu'il provenait d'un rétable de l'ancienne chapelle du Carmel d'Angers. Et puis vous avez été l'un des relecteurs, mais il y en a d'autres dans la chapelle, je les vois, l'un des relecteurs du livre qui a paru au printemps, je pense, hein, sur l'histoire du Carmel d'Angers. Sœur Agnès Marie, vous présenter peut paraître incongru puisque vous êtes ici chez vous. Vous êtes entrée au Carmel, j'espère ne pas me tromper dans les dates, vous êtes entrée au Carmel ici à Angers en septembre 1993, 6 ans plus tard, vous avez fait profession solennelle. Vous avez eu la charge du Carmel d'Angers de 2014 à 2023, et aujourd'hui vous êtes en charge du noviciat. Et puis vous avez des responsabilités à l'échelon national, puisque vous présidez la Fédération des congrès du sud-ouest de la France, et bizarrement, Angers fait partie de ce sud-ouest. Sujet sensible, voilà. C'est avec vous, sœur Agnès-Marie, que je propose d'ouvrir cette table ronde. Nous sommes là pour évoquer les 400 ans du Carmel d'Angers, mais en réalité, on va remonter beaucoup plus loin, on va faire un bond à la fois dans le temps et un bond dans la géographie, puisqu'on va se retrouver dans l'Espagne du XVIe siècle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette année où Thérèse va fonder le Carmel ?
Alors, avant l'Espagne du XVIe siècle, je propose qu'on aille même jusqu'en Terre Sainte, au XIIe siècle, car c'est là qu'est né le Carmel, sur le mont Carmel, qui est donc au nord d'Israël actuel, d'hommes inconnus. Nous n'avons pas de fondateurs connus, c'est une des caractéristiques de notre ordre. En fait, ce sont des croisés latins qui, au lieu de revenir dans leur pays, sont restés en Terre Sainte et se sont installés dans une vallée du Mont Carmel, dans des grottes, pour méditer la parole de Dieu. La première chose qu'ils ont faite, c'est de construire une petite chapelle qu'ils ont dédiée à Notre-Dame. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les frères de Notre-Dame. Notre titulature complète, c'est l'ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. On ne s'appelle pas le Carmel, enfin, on réduit, court, parce que c'est un peu long, mais on est l'ordre de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Entre 1204 et 1214, le patriarche Albert de Jérusalem nous donne une règle, donne une règle aux frères, et à partir à peu près de 1234, les Sarrasins reprenant la Terre Sainte, les Carmes reviennent dans leur pays d'origine. Donc reviennent en Europe, enfin dans ce qui s'appelle aujourd'hui l'Europe. Donc le premier monastère, le premier couvent de Carmes est fondé en Angleterre, il y en a un qui est fondé à Marseille, le deuxième, ensuite à Valenciennes. Et plutôt que de continuer à vivre en ermite dans des déserts, ils choisissent, pour diverses raisons, de devenir un ordre mendiant, comme ça fleurissait à l'époque, c'est l'époque de Saint François, de Saint Dominique. Donc eux choisissent d'entrer dans cette mouvance et de devenir un ordre mendiant. Comme les temps sont durs et qu'il faut adapter la règle du Carmel à une nouvelle vie, la règle est adoucie, c'est ce qu'on appellera la mitigation. La règle mitigée, qui va avoir une grande importance. À partir de 1450 à peu près, des femmes qui vivaient autour des couvents d'hommes demandent à être agrégées à l'ordre, et c'est la naissance des premiers couvents de femmes, des premiers monastères. Le premier est né à Liège. À partir de 1463, Françoise d'Amboise en fonda près de Vannes, qui descendra assez vite au Couët, près de Nantes. Donc, vous voyez, c'est par chez nous, ça. Voilà. Et donc, c'est un Carmel qui est fondé sous la règle mitigée.
Et qui porte déjà le nom de Carmel.
Et qui porte déjà le nom de Carmel, puisqu'on descend de cet ordre des Carmes. En 1535, une certaine Thérèse de Ahumada y Cepeda, plus connue sous le nom de Thérèse d'Avila, entre dans un de ces Carmels qui venait d'être fondé, enfin qui avait été fondé quelques années plus tôt. Elle y vit quelques années et elle est à un moment très très interpellée par deux événements dans l'Église: le développement du protestantisme en France, ce qu'elle va appeler les malheurs de la France, et puis c'est l'époque de la découverte des Amériques. Et donc, elle est très interpellée aussi par le fait qu'il y a des millions d'âmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, et du coup, qui se perdent, entre guillemets. Et donc, elle va vouloir faire quelque chose pour aider l'Église. Et son idée, comme elle est femme et peu de choses, elle décide de fonder un Carmel, de, non pas de réformer le Carmel, mais de fonder un Carmel sous la règle primitive. Et ce sera le début de l'ordre du Carmel déchaussé, qui est notre ordre.
Et là, nous sommes en quelle année ?
Là, on est en 1562. Voilà. Et donc, Sainte Thérèse va ensuite sa réforme, enfin, les Carmels fondés sous la règle primitive vont se répandre en Espagne assez vite. À sa mort en 1582, elle en aura fondé 17. Voilà. Et ça arrivera en France assez vite, mais ça, je laisse la parole à d'autres.
Voilà, c'est avec Yann Gourtet qu'on va voir l'expansion des Carmels à travers l'Europe, d'abord en Espagne, puis en Europe. À quelle date les mères espagnoles, comme on les a appelées, les mères espagnoles, arrivent-elles en France ?
En 1604, c'est-à-dire, si je ne dis pas de bêtises, car j'ai toujours été très nul en maths, 22 ans après la mort de Thérèse d'Avila. Il faut savoir que l'introduction du Carmel, comme Mère Agnès Marie nous l'a dit, était une volonté expresse de Thérèse d'Avila sur son lit de mort, que ses filles partent en France. L'introduction du Carmel aura pris 22 ans, mais beaucoup moins de temps pour l'introduction des écrits de Thérèse d'Avila, qui, traduites en français quelques années seulement après sa mort, sont introduits en France et font connaître non seulement l'ampleur d'une femme majeure dans l'histoire de l'Église, docteur de l'Église en 1970, la première, et en même temps donc tout le rayonnement de la spiritualité carmélitaine, telle que Thérèse d'Avila l'a pensée et telle que Thérèse d'Avila a réformé le Carmel. Et donc, avant 1604, vous avez toute une période de négociation pour introduire le Carmel déchaussé en France. Or, il faut se remettre un peu dans le contexte. Le Carmel des Chaussées est avant tout une institution espagnole et la France est en guerre depuis plus d'un siècle avec l'Espagne pour le contrôle de l'Europe et notamment la suprématie en Europe du côté de l'Espagne ou la France pour casser le carcan sur ses frontières. Et donc introduire même des religieuses espagnoles en France, ça pourrait être un cheval de Troie, pense l'État français, et donc il y aura toute une période de négociations. C'est le cardinal Pierre de Bérulle qui fera venir les premières mères espagnoles en France en précisant qu'il veut, certes, des carmélites déchaussées, mais également des filles de Thérèse d'Avila, c'est-à-dire ses compagnes au moment de la mort de Thérèse d'Avila, comme garante
de l'authenticité
de l'expérience spirituelle, du savoir transmis par Thérèse d'Avila, mais également de la vie du Carmel. Et ce petit groupe de femmes quitte l'Espagne pour, je crois, ne jamais y revenir pour la plupart d'entre elles, même pour toutes d'entre elles, en octobre 1604, et atteignent Paris, où elles s'installent dans un immense couvent qui leur est concédé par l'État, par le Royaume de France, beaucoup trop grand, d'ailleurs, diront les mères espagnoles, dans le Faubourg Saint-Jacques à Paris, sur un emplacement qui se situe entre l'avenue d'Enfer-Rochereau et le Val-de-Grâce. Le bâtiment a été totalement détruit à la Révolution. Il doit rester un portail bloqué entre deux bâtiments. Je n'ai toujours pas trouvé. Mais est-ce qu'il paraît, il existe. Et l'expansion, en fait, va se faire très rapidement, puisqu'il y a plus qu'un effet de mode. Il y a un engouement extrêmement fort, non seulement du Royaume de France, puisque Marie de Médicis, veuve de Louis XIII et mère du roi Louis XIII, soutient la démarche, mais également les évêques ou des particuliers qui demandent dans leur diocèse à avoir des carmélites. Et l'expansion se fait très rapidement, puisque...
À combien, au milieu du XVIIe siècle, vous avez combien de carmels ?
Au milieu du XVIIe siècle, en 1668, donc 64 ans après l'arrivée des premières moniales, vous avez 76 carmels, qui est absolument énorme. D'ailleurs, ça marquera le frein de l'expansion, puisqu'ensuite le recrutement sera très régulier, mais il n'y aura pas d'autres fondations entre 1669 et la veille de la Révolution. On n'en compte qu'une seule, en 1778, à Alençon. Néanmoins, ce sont des fondations qui vont très vite. Ça fait des fondations qui ont lieu tous les ans, voire plusieurs dans la même année. Et ce sont les mères espagnoles qui forment les premières françaises et qui ensuite se dispatchent et vont d'un lieu à l'autre pour porter une nouvelle fondation. Ce sont aussi des années un peu rudes, puisque lorsque les mères espagnoles viennent en France, elles viennent avec la promesse qu'elles se sont faites qu'elles appliqueront la totalité de la volonté de Thérèse d'Avila. Or, les lendemains après la mort d'un fondateur ou d'une fondatrice sont souvent marqués par la difficulté d'appliquer un héritage. Ce sont souvent des années difficiles où il faut continuer le chemin sans l'intuition du fondateur. Et généralement, vous avez des différences d'opinion, de point de vue qui s'impliquent. Et donc, Marin de Jésus était entré dans le royaume de France en voulant être lié au Père Carme, mais pas sous leur tutelle, comme ce qui se faisait en Espagne. Mais Pierre de Bérulle introduit les carmélites en France en ayant en optique qu'on aura les sœurs, mais pas les frères. Évidemment, ça va clasher. Il y a conflit. Alors, bon, au départ, Anne de Jésus se dit, bon, on va gagner du temps, c'est pas grave, on l'aura à l'usure. C'est des carmélites, hein, je peux vous assurer qu'elles sont très douées pour les avoir à l'usure. C'est l'histoire de leur ordre. Sauf que ben, Pierre de Bérulle est entêté, et au bout d'un moment, Anne de Jésus comprend que bon, ben, il n'y aura pas de conciliation possible, et décide de partir vers Bruxelles, où elle mènera une autre politique de fondation durant les dernières années de sa vie, où elle meurt en 1621, si je ne dis pas de bêtises. Dans le même temps, une partie des carmélites espagnoles sont parties en 1600 en Italie, où elles fondront dans la péninsule. Or, je vous ai dit qu'il y a une politique d'accroissement des monastères en France par la volonté de différents interlocuteurs, et on parle de femmes majeures, la liste est extrêmement longue, mais c'est des femmes d'une immense ampleur, je dirais, juste en dessous de Thérèse d'Avila. Mais vraiment des femmes de grande qualité, d'une grande ampleur spirituelle et humaine. Or, dans le même temps, le royaume de France assure sa sécurité de sa frontière à l'est et absorbe en fait nombre de monastères fondés par Mère Anne de Jésus, donc en désaccord de Pierre de Bérulle. Et donc vous avez deux sensibilités du Carmel qui se retrouvent ensemble à cohabiter, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc on a après une bonne 76 Carmels à la veille de la Révolution. Et ce sont des carmels qui, pour beaucoup, survivront pour plusieurs à la Révolution, et d'autres disparaîtront avant.
Avant de passer à la Révolution, on va rester au XVIIe siècle et à la création du Carmel d'Angers. Là, je me tourne vers François, qui souffre malheureusement d'une sciatique. Alors, on va être très, très compatissant, et on vous laisse parler de la création de ce Carmel qui arrive donc à Angers, puisqu'on est aujourd'hui, enfin on va fêter l'an prochain en 2026 les 400 ans, donc ça veut dire que le Carmel a été créé en 1626, mais on n'est pas encore rue Lyonnaise. À vous François.
Oui, alors j'ai repris le sous-titre de ce livre que je vous recommande, là, qui est vendu à l'entrée, Un Carmel au cœur de la ville. Vous voyez le point rouge qui, sur le plan perspectif de Jean le Loyer du XVIIe siècle, donc le Carmel où nous sommes à l'intérieur des murs, mais ce n'était pas l'emplacement d'origine. La première installation qui se fait, donc les carmélites arrivent en janvier 1626, se fait au logis Barreau. Alors, le logis Barreau, c'est là, dans le centre-ville. Vous avez, c'est ici, donc la rue Saint-Aubin, c'est un plan du 18e, la rue Toussaint, et finalement, ce grand hôtel particulier du 15e siècle est entre l'abbaye Toussaint et l'abbaye Saint-Aubin, donc dans une petite rue qui s'appelait la rue Courte, qui s'appelle maintenant la rue du Musée. Ce grand hôtel particulier, eh bien, reçoit habituellement des hôtes de marque, et à ce moment-là, alors Marie de Médicis, que vous avez ici en médaillon d'après une œuvre là, des musées, accorde cette installation provisoire pour 3 ans aux premières carmélites, qui viennent d'ailleurs de plusieurs carmels, aussi bien de Paris, de Tours, donc elles arrivent au nombre de 6. Une question se pose, enfin en tout cas moi je me suis posé, c'est un bâtiment qui est très vaste, elles sont peu nombreuses encore au début, et où se déroulait le culte, où se déroulait la chapelle, où était vraiment la clôture, puisqu'on leur demande de respecter une clôture dans un hôtel particulier, certes qui a une cour fermée, mais ce n'est pas forcément évident. Alors, est-ce déjà dans la grande salle dont vous avez ici les baies, actuellement c'est la galerie d'actualité du musée, qui a été la chapelle du séminaire à la fin du XVIIe siècle, est-ce que c'était déjà là, ou est-ce qu'elles utilisaient le petit oratoire qui était au bout de la galerie que je vous ai montré précédemment. Voilà, donc sur cette galerie, vous aviez à l'étage un petit oratoire, mais qui était vraiment petit. En fait, on ne sait pas très bien où étaient tous ces lieux réguliers. Quand les Carmélites ont été fondés, c'est un grand moment, le XVIIe siècle, dans cette réforme catholique, de fondation de couvents féminins. Je vous ai mis ici toute la liste qui est assez impressionnante. Hein. Ça commence par les Ursulines en 1618, les Bénédictines du Calvaire, hein, qui sont toujours là à côté et qui ont été créées en 1619, et puis d'autres Bénédictines, des Visitandines, des Cisterciennes, les Sœurs Pénitentes, les Filles de la Croix, les Sœurs de la Providence, les Filles du Bon Pasteur, qui naissent. Très différente du bon pasteur actuel, et puis des sœurs hospitalières. Je vous ai mis d'ailleurs les dessins le dessin de Balin là, des Bénédictines du Calvaire, et puis là vous avez la Visitation, et pas très loin, il y avait le couvent de Sainte-Catherine des Cisterciennes dans le secteur, on va dire, de l'Académie, de la place de l'Académie d'Angers. Je vous ai dit, c'était pour 3 ans. Alors, elles changent de lieu. Elles vont aller dans un lieu qui n'est pas très très bien localisé, qui s'appelle la Gannerie, qui est dans la Doutre, qui correspond à l'enclos, de l'ancien enclos des pénitentes. Alors, les pénitentes, vous êtes beaucoup d'entre vous, sont du quartier, donc connaissent l'hôtel des pénitentes, qui est une propriété qui appartenait à l'abbaye Saint-Nicolas. Et il y avait un terrain qu'on appelait la Gannerie, qui était plutôt à proximité de la rue du Tambourin, et donc pas très loin finalement du couvent actuel. Alors ça devait être un peu une installation un peu provisoire en attendant d'avoir un couvent à elle. Bon, finalement ça se prolonge. Et ça se prolonge et ça se termine un peu, bon, à un moment donné, d'une façon un peu difficile. Mais en tout cas, c'est un quartier aussi, je voulais dire. J'ai parlé des communautés du XVIIe siècle. Eh bien, déjà dans ce quartier, il y avait d'autres couvents féminins comme la Grande Abbaye du Ronceret. Donc j'ai évoqué les Bénédictines de Calvaire, mais il y avait aussi des frères Carmes, alors qui arrivent ici au XIVe siècle, dans ce qu'on appelle l'île des Carmes, mais qui est maintenant rattachée à la Doutre du XIVe siècle, les frères Augustin, et puis il y a les sœurs hospitalières, notamment les filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Oui, je vous disais que c'était un moment aussi un peu difficile à la fin, puisque la peste sévit à Angers et on les presse de sortir. Il y a eu des sœurs qui ont péri de la peste, et donc elles trouvent refuge grâce à l'évêque Claude de Rueil au manoir épiscopal des Vantards à Écouflant. Bon, ça dure quelques mois. Et en 1639, elles arrivent ici, dans les lieux que l'on connaît, l'hôtel de Puy-Gaillard, qui était une propriété d'un ancien gouverneur d'Angers, et le propriétaire éminent de tout ce quartier, c'est l'abbaye du Ronceret, là, dont vous avez la représentation là, de religieuse sur un tableau des musées d'Angers. Et cet hôtel est un hôtel du XVIe siècle, donc un hôtel qui subsiste avec le grand portail que l'on connaît. Voilà, alors elles vont construire leur bâtiment. Vous voyez que ça s'étale quand même sur une période pratiquement d'un demi-siècle. Les ailes du cloître vont d'abord être construites, puis des annexes, et finalement le dernier bâtiment qui va être construit, c'est un peu paradoxal, mais c'est la chapelle. Alors elles avaient quand même une chapelle, c'était des anciennes écuries qui avaient été lambrissées et qui faisaient office de chapelle. Donc elles vont en 1715 poser la première pierre, puis on a cette construction qui se fait aussi avec le cœur des religieuses, celui qui existe encore, et vous avez ici sur la partie de la clé de voûte la date de 1721 qui marque l'achèvement du cœur des religieuses. Le reste de la chapelle, alors que l'on voit sur une photo la fin du 19e ou début du 20e, évidemment le décor était très différent au XVIIe siècle, donc la construction s'achève en 1724. Et de son décor d'origine, on ne connaît pas grand-chose. Alors on connaît l'existence d'un tableau qui était dans une des deux chapelles annexes, qui était celle de Sainte-Thérèse. L'autre chapelle était consacrée à Saint-Jean de la Croix. Et comme ici le couvent est dédié à l'incarnation du Sauveur, eh bien, au musée d'Angers, nous avons un grand retable, un grand tableau qui faisait partie d'un retable, qui est une nativité et qui, je suppose, est celui du grand retable du maître-autel, en fait. Voilà. Alors ça, j'ai eu la chance de trouver l'identification. Ce tableau n'est pas exposé, hein, il est en réserve. Alors, autre élément également du XVIIIe siècle, qui est encore conservé ici, qui avait été une sculpture qui avait été cachée à la Révolution, c'est un enfant Jésus, dont vous voyez ici la photo. Voilà les quelques éléments là, sur ce couvent au XVIIe siècle.
Merci François. Parlons de ce premier monastère. Elles sont six sœurs, donc au tout début. D'où viennent-elles? Qui sont-elles? Est-ce qu'elles ont laissé un nom? Et est-ce qu'on a gardé des objets de cette première implantation?
Sœur Agnès. Alors, en fait, elles ne sont pas six, elles sont cinq, qui viennent de couvents différents. La prieure Mère Renée de Jésus-Maria vient du Carmel et professe du Carmel de Tours. Mais très peu de temps après sa profession, elle a été appelée à Paris pour que Bérulle la forme aux charges qu'il voulait lui donner. Donc elle vient de Tours-Paris. Les autres viennent, la sous-prieure vient de Tours, une vient de Nantes, une vient d'Orléans, la seule qui décédera chez nous. Les autres sont partis, je le dirai après, et une du second couvent de Paris. Donc vous voyez, ce sont des sœurs qui viennent de couvents différents. Elles sont très jeunes. Mère Renée de Jésus-Maria a 26 ans et elles ont toutes moins de 30 ans, à peu près. Donc vous voyez, un groupe de jeunes femmes. Ce qui caractérise peut-être cette époque, c'est la grande pauvreté dans laquelle va naître le Carmel. Puisque la comtesse de Caraval, qui avait initié la fondation du Carmel à Angers, en accord avec son frère Charles Miron, qui était l'évêque du lieu, va décéder 5 jours après l'arrivée des sœurs. Et avant de verser les 9000 livres qu'elle avait promises, et son fils n'a jamais voulu les verser. Donc en fait, les sœurs se sont retrouvées sur la paille. Et Mgr Miron lui-même a été nommé évêque de Lyon 2 ans après l'arrivée des sœurs. Donc, très très vite, elles n'ont eu que très peu de soutien. Et donc, elles ont vécu dans une très très grande pauvreté. Elles ont essayé de vivre de leur travail, enfin, ce qui est le cas des carmélites, mais là, elles pensaient quand même avoir un petit peu d'avance. Et c'est sans doute la raison pour laquelle nos fondatrices ne sont pas restées, parce qu'elles sont arrivées sans dot. Et vu l'extrême pauvreté, Bérulle a cru bon de les remplacer par des sœurs mieux dotées. Donc en fait, il a repris 4 des 5 fondatrices et il nous a envoyé 5 sœurs, novices ou professes perpétuelles, mais avec des bonnes dotes. C'est une histoire de gros sous, mais n'empêche que ça joue. Enfin, ça... Voilà. Et puis, bon, elles ont essayé de travailler. Alors, comme travail, elles avaient bien sûr quand elles ont pu, la culture du jardin qu'elles vendaient. Alors, je ne sais pas, au logis Barreau, je ne sais pas trop ce qu'elles avaient comme espace vert.
Si, il y en avait un qui était en arrière, là, qui est une cour actuellement, mais qui était un
voilà, jardin. Qui était, voilà.
Mais bon. Petit. Hein.
Et puis assez vite, elles ont, il y en a une qui a appris la broderie du point de Gênes, qui était très à la mode à l'époque. Et donc, elles ont fait des ornements, elles ont vendu des broderies, et c'est comme ça qu'elles ont pu vivre. Au logis Barreau, donc les trois premières années, il y a eu 5 professions de jeunes qui venaient plutôt de familles aisées. Mais, comble de bonheur, la fondation étant très précaire, les familles ne voulaient pas donner de dot à leurs filles. Et donc, elles donnaient plutôt une rente viagère, ce qui n'arrangeait pas forcément les sœurs. Donc, ce qui fait que ça a augmenté la pauvreté. Donc, il y a eu 5 professions au logis Barreau, 13 à la Gannerie, et puis en tout 117 jusqu'à la Révolution, auxquelles il faut ajouter 2 tourières. Très tôt, nous, on a eu des sœurs tourières. L'origine sociale des sœurs est assez élevée. On trouve pas mal de filles d'avocats ou présidiales, d'écuyers, de trésoriers de la maison du roi, de familles anoblies, mais aussi des filles de marchands de draps, marchands ciriers qui sont converses. On a une fille de tailleur d'habits. Voilà. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de sœurs qui viennent vraiment de la campagne profonde. Enfin, ça ressort pas en tout cas.
Je vous interromps quelques secondes. Est-ce que ça représente c'est conforme au profil moyen des carmélites de France à cette époque-là, ce qu'évoque sœur Agnès Marie?
À vrai dire, ça dépend à la fois des carmels, de leur implantation géographique, et en fait, c'est très varié. On a en fait un panel assez large, je pense. L'un des carmels les plus célèbres du XVIIIe siècle était le carmel de Compiègne. On avait aussi bien des filles de la campagne, des filles de paysannes, de la grande aristocratie, argentées ou désargentées, des filles de bourgeois. Ça, il serait pas très aisé de faire un portrait type d'une communauté, tant ça peut varier. Et c'est une réalité qui s'est poursuivie tout au long de l'histoire du Carmel aujourd'hui. À une époque, surtout, je dirais, les statuts sociaux étaient plus marqués. On avait quand même une certaine variété, ce qui faisait d'ailleurs la particularité du Carmel, où vous avez même les classes les plus aisées qui acceptaient de tout perdre pour se mettre à l'échelle parfois de prieurs qui étaient issus de la campagne.
Je reviens à sœur Agnès Marie. Oui, est-ce qu'on a gardé des objets de ces débuts du Carmel?
Alors, on a 3 documents écrits. Un cahier... Excusez-moi, j'ai un rhume, c'est pas très pratique. On a donc un cahier qui a été écrit par une prieure, mère Anne-Marie du Saint-Sacrement, qui a décidé d'écrire ce qui s'est passé depuis la fondation jusqu'à sa mort en 1718. Donc ça, on a ce document très précieux. Elle dit, voilà, elle écrit pour que les sœurs qui la liront, je cite, « se persuadent que celles qui les ont précédées n'avaient pas plus de force ni de santé qu'elles en peuvent avoir, mais qu'elles étaient animées d'un grand amour de Dieu et d'une grande estime de leur vocation qui leur a fait supporter pour le soutien de celle-ci toutes les peines et les difficultés qui se rencontrent indispensablement en une vie pénitente. » C'est très beau, hein, elle écrit voilà, pour que on soit dynamisé dans notre vocation. Donc on a cet écrit-là. On a une lettre de mère Madeleine de Saint-Joseph, qui est la première prieure française du Carmel du couvent de Paris, qui a écrit à notre deuxième prieure, qui était issue du couvent de Paris. Et donc ça, c'est un bijou. Et puis, on a une troisième... mais là, ça me fuit. Je croyais qu'on avait un troisième. Donc ça, c'est pour les... Je croyais qu'on avait un troisième écrit. Ah oui, on a la liste de toutes les sœurs enterrées sous les cloîtres. Puisque nos sœurs, jusqu'à la Révolution française, ont été enterrées sous les cloîtres. C'est quelque chose d'assez extraordinaire pour nous de marcher tous les jours sur nos sœurs. Et donc on a la liste, pas tout à fait complète, jusqu'en 1754, je crois, de toutes nos sœurs. Donc c'est les 3 documents qu'on a. Après, on a quelques objets. On a le tableau qui se trouve au fond du cœur, qui représente la Vierge Marie et l'enfant Jésus, avec 6 des premières carmélites françaises. On a un tableau aussi, une descente de croix, qui, à cause de son aspect monumental, a passé la Révolution. On a un portrait de Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix aussi. En fait, ce sont de grands tableaux que je pense n'ont pas pu passer les portes, donc ils sont restés sur place.
Merci, sœur. Je vous propose de faire là un autre bond, mais c'est aussi devant nous. On arrive à la période révolutionnaire, et là, le Carmel d'Angers ne va pas échapper à la tourmente. Il va devoir... les religieuses vont être expulsées, il y aura une fermeture. Est-ce qu'il y aura des victimes? Est-ce que certaines religieuses du Carmel d'Angers vont payer de leur vie?
Non.
Très bien.
Non, mais par contre, 8 d'entre elles vont être déportées. 8 vont être condamnées, vont être arrêtées et condamnées à la déportation perpétuelle avec un groupe de 96 religieuses qui partiront d'Angers, qui iront en bateau par la Loire jusqu'à Nantes et ensuite en char à bœuf jusqu'à Lorient. Et là, elles pensaient être déportées avec les galériens de Madagascar, partir à Madagascar. Elles sont arrivées à Lorient le 9 juillet 1794 et le 23, c'est la chute de Robespierre. Et du coup, elles sont restées quelque temps en prison et après, elles ont été libérées.
Donc, les Carmels et la Révolution.
Oui, et il s'agit là d'aborder, je pense, l'un des points les plus douloureux de l'histoire du Carmel, qui certes n'en a pas manqué, ordre national porté par la couronne de France, intrinsèquement lié à l'histoire de notre pays. Le Carmel de France a connu à la Révolution, comme tous les ordres religieux, je pense, l'une de ses pages les plus sombres. En effet, avant même le déclenchement de la Révolution, le XVIIIe siècle avait été marqué par la naissance de courants philosophiques particulièrement hostiles à la vie religieuse, à la vie chrétienne même tout court, avec cette conception qui n'a pas totalement disparu, que des contemplatives, ça ne produit rien, donc ça ne sert à rien. Très agréable quand on entend. Sauf que cette idée a fait son chemin, et dans les hommes qui participent aux membres du tiers-état de l'Assemblée du clergé, parce que le clergé n'était pas toujours exemple de reproche, et de la noblesse, ce sont ces mêmes courants de pensée qui vont insuffler un virage de plus en plus dur au moment où notre révolution, concrètement, éclate à l'été 1789. Et les choses tournent très mal, puisque l'on sait que l'été 1789 est marqué par l'ébranlement de notre monarchie absolue, son effondrement en quelques jours, remplacé par une monarchie constitutionnelle particulièrement fragile. Et dès le 28 octobre 1789, la nouvelle Assemblée législative vote l'interdiction pour tous les hommes et femmes du pays, l'interdiction des vœux monastiques, ce qui revient à une condamnation à mort de tous les ordres religieux à petit, moyen et surtout long terme, puisque en fait c'est un déclin sur 40 ans. Mais ce déclin n'aura pas lieu puisque l'année suivante, en fait quelques mois après, le 16 février 1790, cette même Assemblée décrète la vente des biens, enfin, la vente non seulement des biens monastiques, mais aussi la suppression de tous les ordres religieux définitivement, avec, parce que Monseigneur est trop bon, la possibilité pour les derniers religieux de pouvoir rester vivre ensemble. Mais l'engrenage continue, le pays sombre dans une politique de plus en plus anticléricale. En 1791, donc un an après, l'État français, la monarchie française constitutionnelle en tant que telle, décide de rompre avec Rome en promulguant ce qu'on appelle la constitution civile du clergé, c'est-à-dire un clergé de France placé sous tutelle de l'État, ce que Rome ne peut pas accepter. Et l'escalade anticléricale continue. À l'été 1792, pendant que la monarchie française meurt dans le palais des Tuileries assiégé par la garde nationale avec les derniers Suisses qui la défendront au péril de leur vie, et ils périront d'ailleurs, la Convention décide de procéder à l'expulsion de toutes les communautés religieuses avec interdiction faite à tous les anciens religieux de se réunir et de vivre ensemble. Ces expulsions sont présidées par des commissaires qui décréteront aux religieux en question qu'ils sont libres, libérés de leurs vœux. Et beaucoup, notamment des femmes, il faut le souligner, leur rétorqueront qu'elles sont entrées librement et qu'elles en sortiront librement. Donc, c'est-à-dire qu'elles n'en sortiront pas. Pour nombre d'abbayes, c'est une fin brutale, notamment les abbayes bénédictines, cisterciennes, qui disparaissent brutalement, et beaucoup d'ailleurs ne s'en relèveront jamais. Le Carmel a cette chance que les communautés sont petites, 21, 22 moniales grand maximum, sans compter les sœurs tourières, Ce qui fait que c'est plus facile de se disperser, et avec un esprit de famille particulièrement fort, beaucoup de Carmels misent sur la patience, l'usure, encore une fois, en se dispersant dans des petites maisons à 3 ou 4, avec la prieure qui tente de faire le lien. Mais c'est une longue épreuve, puisque les sœurs ne peuvent pas savoir à ce moment-là ce qui les attend. L'escalade de la violence, elle, ne cesse de s'accroître, puisque en 1793, c'est le déclenchement de la terreur avec une véritable purge de la population, au sens où tous les anciens ordres qui fondaient l'ancien régime, tous les corps de population ne sont pas épargnés par la violence qui s'abat. Et le cas le plus concret pour les religieux, le plus célèbre, puisque nous avons commémoré et même célébré cette année, est celui des carmélites de Compiègne. 16 carmélites envoyés à l'échafaud ensemble en chantant. 16 carmélites qui s'étaient dispersés, avaient pris l'habit civil, mais qui avaient refusé de se séparer et surtout de renoncer à leur vœu monastique. Véritable cas politique pour faire un exemple, puisque la terreur étant enclenchée à Paris, mais aussi partout dans les provinces, je pense aux tueries de Lyon qui sont absolument effroyables, avec Fouché qui sera ministre de la police plus tard. Les carmélites de Compiègne donc, sont envoyés à Paris pour être jugés, durant un procès bâclé comme la Révolution a su les faire pour Marie-Antoinette et la Dubarry. Procès bâclé durant laquelle la prieure, mère Thérèse de Saint-Augustin, se présentera devant l'accusateur public, Fouquier-Tinville, en décrétant que s'il y en a une qui doit mourir, c'est elle, puisque c'est elle qui a porté sa communauté et qu'on relâche ses filles. Fouquier-Tinville refuse et demande à toutes les sœurs si elles renoncent à leurs convictions religieuses. Les sœurs, naturellement, refuseront toutes, avec beaucoup de courage, en disant qu'elles préfèrent mourir que renoncer au Christ, et elles seront condamnées avec le motif assez savoureux de fanatisme. Selon la définition qu'en donnait Voltaire, qui estimait dans ses écrits, et je pense que vous pouvez facilement le retrouver, que le fanatisme étant une conviction religieuse, qu'il faut absolument l'arracher aux gens, et s'il faut les mettre à mort, il ne faut pas hésiter. Histoire de rappeler que les lumières ont souvent éteint la lumière. Il y avait des bons trucs, je ne dis pas le contraire, mais ça ne faisait pas partie. Donc les carmélites seront envoyées à l'échafaud le lendemain. Privées de leur habit civil, elles remettront leur habit religieux et monteront à l'échafaud en chantant des cantiques, notamment les cantiques que les carmélites chantent pour les fondations de Carmel. Les témoignages qui nous sont parvenus de cet épisode dramatique, donc le 17 juillet 1794, disent qu'il y avait un immense silence sur la place à la fin. Les sœurs ont été exécutées sur la place de la Réunion à Paris, avec, il me semble, environ plus de 1300 personnes en quelques mois. Parce que, il faut préciser, la place de la Concorde était tellement rouge de sang qu'entre l'odeur de pourriture des corps, de décomposition du sang, et le fait que la terre se mêlait, c'était devenu invivable. Grosse ambiance dans Paris. J'en profite pour vous dire que si vous avez l'occasion d'aller au cimetière du Picpus à Paris, le corps des sœurs y repose toujours, et c'est toujours particulièrement émouvant d'y aller. D'autres carmels, comme l'a dit ma mère Agnès Marie, connaîtront soit l'emprisonnement, soit la tentative de déportation. Il faut savoir que les carmélites de Compiègne s'étaient offertes en martyr deux ou trois ans avant leur mort, en acceptant quoi qu'il arrive, ce qui leur arrivera, quitte à mourir, en précisant qu'elles le font pour le rétablissement de la paix dans l'État et dans l'Église. Robespierre et ses compagnons chuteront 9 jours après leur mort. Le Carmel, lui, traversera cette épreuve douloureuse, dans l'attente, dans la crainte. Certains monastères ont anticipé la catastrophe qui s'annonçait en procédant à l'évacuation de leurs archives, de leurs tableaux et de la bibliothèque. Le Carmel de Paris, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, a fait évacuer l'intégralité de ses archives, de ses œuvres d'art et de sa bibliothèque, et je peux en témoigner puisque nous les avons encore, avant de se disperser dans Paris. Et elles, notamment, ont été les premiers témoins de l'ambiance qui devait régner dans la capitale. La fin de la terreur ne marquera pas le rétablissement de la vie religieuse. Il reste encore 5 ans de période révolutionnaire, d'instabilité politique, pendant lesquelles les sœurs attendront patiemment, encore et encore, que les choses s'arrêtent. Le drame est que pour beaucoup de religieuses, beaucoup mourront sans avoir jamais revu leur Carmel, sans avoir jamais pu reprendre l'habit, et sans avoir, parfois certaines, peut-être même sans avoir jamais peut-être revu leur compagne, puisque certaines sœurs feront le choix de repartir dans leur famille, d'y rester, des raisons qu'on peut comprendre. D'autres se perdront dans les méandres de l'histoire. Il y a des sœurs dont on n'a jamais eu de traces. Mais certains carmels, et ce sera une véritable lueur d'espoir, tiendront dans cette époque extrêmement ténébreuse avant pour mieux rejaillir avec la volonté de Dieu.
Merci. Revenons à Angers, sœur Agnès Marie. Le Carmel va revenir à Angers au milieu du XIXe siècle seulement.
Voilà, il y avait une tentative de... Les sœurs qui s'étaient dispersées dans le quartier ont essayé de refonder et puis ça n'a pas marché. La dernière sœur du premier Carmel d'Angers s'éteint en juillet 1844. Mais en fait, très peu de temps après, une demoiselle pensionnaire des Augustines, mademoiselle d'Aubigny, souhaite le rétablissement du Carmel à Angers. Elle en parle à l'évêque Monseigneur Guillaume Angebeau, qui est tout à fait favorable. Et comme elle est de Tours, elle s'adresse d'abord au Carmel de Tours, qui, pour des raisons que je ne connais pas, ne refuse, mais nous indique le Carmel de Cahors. Bon, c'est loin, mais Carmel de Cahors, qui venait de participer à la fondation du Carmel d'Albi. Et Mère Séraphine de la Croix, qui venait de déposer la charge de prieur au Carmel de Cahors, se porte volontaire pour refonder le Carmel à Angers. Alors, il y a une première date, avril 1847, qui finalement sera reportée en raison des menaces de la Révolution de 48. Et les sœurs, Mère Séraphine et Sœur Raphaël, arriveront à Angers pour refonder le Carmel le 26 novembre 1850, accueillies par Mademoiselle d'Aubigny chez nos sœurs Augustines. Alors, nos sœurs Augustines, on leur doit énormément, parce que c'est vraiment grâce à elles qu'on a pu refonder. Et depuis 175 ans, puisqu'on va fêter nos 175 ans de refondation, des liens étroits, elles nous offrent le dessert tous les ans, le 15 octobre, fête de Sainte Thérèse d'Avila. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Et vraiment, on leur garde une reconnaissance très forte. Très vite, Mademoiselle d'Aubigny leur trouvera un logement impasse Saint-Julien, donc en plein centre-ville. Et le 23 décembre 1850, le second Carmel, le Carmel d'Angers numéro 2, est inauguré. Avec quatre autres sœurs qui viendront de Cahors, donc un groupe de six là. Et ces premiers mois, ces premières années seront vraiment pareil, comme à la fondation, on vivra dans une grande pauvreté et ce sont nos sœurs Augustines qui nous nourriront, qui nous habilleront, qui... Mère Sainte Victoire a été d'une bonté et d'une charité avec nous remarquable.
Où sont-elles installées les Augustines à l'époque ?
Rue de la Madeleine. Rue de la Madeleine.
Rue de la Madeleine, comme maintenant. Voilà. Après l'impasse Saint-Julien, elles habiteront au faubourg de la Madeleine, assez peu de temps. Puis elles achèteront un vieux prieuré qui se situe non loin de la gare actuelle, là où sont maintenant les Capucins. Donc elles ont acheté, et au moment où elles allaient se mettre à faire les travaux pour aménager ce prieuré en Carmel, notre monastère, qui était devenu bien national et qui était devenu l'hôpital de la ville, a été mis en vente aux enchères, puisque l'hôpital a été mis en fonctionnement. Et Monseigneur Angebeau a dit aux sœurs, il faut racheter votre Carmel. Donc on a pu racheter, la vente aux enchères, on a pu racheter notre Carmel en 1855. Les sœurs sont arrivées le 10 janvier 1855. Et on a un petit écrit très très émouvant, je trouve. C'est qu'on dit qu'une des premières choses qu'elles ont fait à 7 heures le soir, quand elles sont arrivées, elles ont décrypté ce qui est à la clé de voûte dans notre cœur, avec la date de 1721 là, que François Comte nous a montré tout à l'heure. Je trouve que c'est très émouvant. Elles ont voulu s'inscrire dans l'histoire du premier monastère. Voilà. Ah oui, une petite anecdote. Donc elles ont racheté aux enchères le monastère qui leur appartenait, enfin qui nous appartenait. Et comme la ville ne pouvait pas fournir d'acte de propriété, ils ont déclaré que les hospices étaient en possession paisible et continue de l'immeuble depuis 1795, donc ils n'avaient pas besoin de fournir d'acte de propriété. Voilà. Et puis en 1862, on a pu racheter notre chapelle, puisqu'elle avait été donnée, enfin elle avait été mise à disposition de l'évêque pour pour créer la paroisse. En fait, c'est pour ça que notre paroisse, dont le curé est ici, est sous l'appellation de Sainte Thérèse d'Avila, ce qui est très rare dans notre région. Ce n'est pas la petite Thérèse, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Et donc, et en 1862, comme l'église Sainte Thérèse a été construite, nous avons pu la racheter, pareil, aux enchères, pour 11 500 francs.
Merci. Les carmélites reviennent donc au milieu du 19e et elles ne sont pas les seules religieuses à rentrer dans le quartier de la Doutre. François, il y a d'autres congrégations qui reviennent également.
Oui, effectivement. Alors, je reprends toujours. Là, c'est un plan, plutôt une vue du milieu du 19e siècle, une vue de ballon. Donc, on a des espaces assez grands dans cette Doutre encore, hein, même aujourd'hui. Alors, juste un petit rappel, on vient de le dire, mais là en image, avec les tout débuts, là chez les Augustines, avec Mère Sainte Victoire. Et puis dans l'impasse Saint-Julien. Alors l'impasse Saint-Julien, quand on y va actuellement, hein, c'est une petite impasse qui part de la rue Saint-Julien. Les maisons ne sont pas très importantes. En fait, l'impasse était beaucoup plus profonde, hein, en taille. Et il y avait des anciennes maisons qui appartenaient à la collégiale Saint-Julien. Donc on a ici un dessin là, d'Abel Ruel qui représente ces grandes maisons. Alors évidemment, elles avaient peut-être suffisamment de place, mais en tout cas, elles n'avaient pas de jardin, pas de cour. Enfin, c'était quand même pas très commode. Elles ont dû partir assez vite et puis arriver dans le faubourg Bressigny, prolongement de la Madeleine. Mais là, ce sont des petites maisons. Alors, je ne sais pas exactement où elles étaient, ou un ensemble de petites maisons. Enfin, c'est pas facile à savoir. Et puis elles arrivent dans la cour Saint-Lô. Alors on dit prieuré, mais en fait c'était la maison du doyen de Saint-Lô. C'est exactement à la place de l'actuel couvent des Capucins. Et là, elles sont restées 4 ans. Et en 1860, ce sont les Capucins qui reprennent le lieu. Donc, quand elles arrivent ici, en 1856... Ben, certes, elles sont très contentes de revenir dans le bâtiment, mais c'est en très mauvais état. Très mauvais état. On dit qu'il faut plusieurs années avant que l'humidité parte. Voilà, les murs, les toitures, les sols, les huisseries, tout ça est à reprendre. Donc ça va prendre évidemment un peu de temps. Alors, ce ne sont pas les seules religieuses à récupérer leur couvent d'origine. Il y a d'autres congrégations, d'autres religieuses qui l'ont fait. C'est d'une part les filles de la charité qui sont revenues à l'hôpital Saint-Jean dès 1806. Les calvériennes ont racheté également leur couvent en 1821. Et puis les ursulines, alors elles avaient commencé déjà à la fin du Premier Empire, et finalement en 1826, elles récupèrent l'ensemble. Donc vous voyez, il y a un mouvement qui se fait de récupération petit à petit des couvents. Bon, ce sont les trois seuls exemples pour Angers. Alors là, je crois que vous n'allez pas pouvoir lire, mais on est dans un secteur, toute la rive droite, où il y a eu beaucoup, beaucoup de congrégations religieuses au XIXe siècle.
Comment s'explique cette attraction de la rive droite ?
Alors, d'une part, il y a un aspect historique, hein, on l'a vu dans la période précédente, c'est qu'il y avait déjà des bâtiments, et puis il y a des espaces aussi libres et plus disponibles et moins chers aussi. Donc ça compte pour se réinstaller. Alors les grandes taches rouges que vous avez sur ce document, qui est un document d'ailleurs qui a été fait par un journal anticlérical de la fin du 19e siècle pour montrer que, bah oui, à Angers, il y a quand même beaucoup de congrégations, et en plus elles ont de l'argent, donc ils donnent les revenus, et évidemment ce sera très bien de récupérer tout ça. Ce qui ne va pas se faire, évidemment. C'était pas aussi simple. Donc, il y a à la fois des sœurs hospitalières, des contemplatives, il y a les frères des écoles chrétiennes aussi, il y a les dominicaines de la présentation qui s'occupent de l'asile Saint-Nicolas, de l'orphelinat de garçons, les sœurs de Saint-Charles, même les sœurs d'instruction chrétienne de Saint-Gilda-des-Bois qui ont une petite école rue Malsoux, donc les carmélites en 1856, les oblates de Marie Immaculée, les pères de la mission, lazaristes, rue de la Méniane, les pères de Saint-Sacrement, je vais revenir dessus, les sœurs de l'Espérance, les servantes des pauvres et les frères de Sainte-Croix. Donc vous voyez, la liste est assez impressionnante de toutes ces congrégations, donc sur toute la Doutre et les abords immédiats. Eh bien, la chapelle, comme on vous l'a dit là tout à l'heure, est depuis 1802, est une paroisse. Et quand les religieuses vont arriver, elles vont être obligées de partager cette chapelle avec la paroisse Sainte-Thérèse, donc pendant quelques années, jusqu'à l'achèvement de la construction actuelle de l'église Sainte-Thérèse que vous avez ici, en 1862, où d'ailleurs dans le chœur, vous avez encore des peintures murales qui représentent la vie de Sainte Thérèse. Alors, donc à cette période-là, il y a eu aussi une toute petite période pendant 2 ans, parce qu'il y a eu ce qui était appelé un cyclone, mais qui a un ouragan énorme en 1900. L'église Sainte Thérèse a été très gravement touché, une partie du clocher s'est effondrée, enfin il a fallu reprendre beaucoup de choses, et pendant 2 ans, la paroisse a célébré ses offices ici, entre 1900 et 1902. Et les pères du Saint-Sacrement, donc fondés par Pierre-Julien Aymard, alors qui devaient s'installer de manière définitive au Tertre Saint-Laurent pour pas mal de raisons, ça ne s'est pas fait, eh bien, ont été accueillis par le Carmel et donc ont utilisé ici la chapelle pendant ici quelques années, jusqu'à la construction de leur couvent qui se situe dans l'actuel collège Saint-Benoît, donc ex-Saint-Martin, ex-Saint-Maury, donc vous voyez dans le centre-ville d'Angers. Le quotidien de ces religieuses a été quand même bouleversé par les guerres. Et là, on oublie souvent que la guerre de 70 précède à bien des égards et sur bien des aspects la Première Guerre mondiale. On a des réquisitions. Là, il y a eu, comme le Carmel ne dispose pas de très grandes salles, c'était difficile de faire un hôpital temporaire, mais il y a eu l'accueil d'une crèche. Alors, c'était pour la guerre, mais en fait, ça s'est prolongé pendant 6 ans. Et puis, il y a eu les réfugiés du Nord, qui étaient très importantes. Alors, les religieuses ont accueilli aussi d'autres carmélites et puis quelques familles du nord de la France dans une annexe. Et puis en 40, alors là c'est un exil sur la route en direction de Poitiers pendant quelques semaines, mais bon, elles sont revenues assez vite. Alors je voulais quand même signaler dans les épisodes aussi un peu douloureux, mais finalement qui sont bien finis, les sœurs ont eu très peur d'être expulsées à la suite des lois sur les congrégations donc de 1880 et également suite aux lois de 1901. Elles avaient le soutien total des deux évêques, donc Mgr Frépel et Mgr Rumeau. Et donc on fait partie, comme le citait ce journal très anticlérical, ceux qui restent, donc celles qui restent, elles en faisaient partie aussi, et elles n'ont pas été expulsées, contrairement à ce qu'indique la caricature avec les capucins ou les oblates de Marie Immaculée. Elles avaient préparé leurs valises, et heureusement, tout s'est bien passé, elles ont été autorisées et elles sont restées. Autre moment très, très douloureux pour qui concerne les bâtiments, je vois qu'il y a une petite. Le titre est un peu caché, c'est 1944, c'est les bombardements alliés qui vont détruire complètement la chapelle. C'est pour ça que par rapport au reste des bâtiments, vous avez ici une chapelle contemporaine. Et donc la chapelle a été a souffert donc de ces bombardements alliés et finalement reconstruit avec une nouvelle dédicace en avril 1956.
Bombardement qui visait en fait l'aérodrome d'Avrillé.
Oui, et puis voilà, hein, on sait bien que là c'était la Royal Air Force, donc les bombes, voilà, elles tombaient dans des endroits qui n'étaient pas forcément visés.
Merci. Je voulais qu'on revienne avec vous, Yann, sur ce 19e siècle et la renaissance des Carmels à travers la France, avec de nouvelles figures qui apparaissent. Et naturellement, il y a la figure qu'on ne peut pas passer sous silence de Thérèse de Lisieux.
Exactement, merci Yves. Période extrêmement féconde qui tourne la page de la période révolutionnaire non sans mal. Ce que Mère Agnès Marie nous l'a expliqué, nombre de Carmels doivent se relever à partir de rien. Certains, très peu de Carmels finalement ont retrouvé leur monastère d'origine. Beaucoup ont dû tout reprendre, c'est-à-dire racheter des bâtiments, reconstituer des communautés, souvent à partir de communautés dispersées. On récupère une Carmélite ici, deux Carmélites là, trois Carmélites ici. Mais certains monastères qui vont s'imposer dans le paysage carmélitain par leur prestige ou leur ancienneté parviennent à se réunir intégralement, notamment le fameux Carmel de Paris, intégralement, même si au prix du rachat d'un petit morceau de leur bâtiment complètement ruiné, dans lequel elles vivront très pauvrement pendant 50 ans, avec de splendides tableaux du 17e autour. C'est un choix. Ce relèvement prend du temps, mais néanmoins porté par des femmes au tempérament énergique, avec beaucoup de courage, marquées par les épreuves, mais qui n'en ont rien perdu de la flamme de leur mère fondatrice, Thérèse d'Avila. Et on ne peut pas évoquer cette période sans penser à Mère Marie-Camille de Soicourt. Mère Marie-Camille de Soicourt était une jeune carmélite, novice temporaire, je crois, quand la Révolution éclate, et qui verra toute sa famille partir à l'échafaud progressivement. Sauf que, les vœux religieux étant abolis, les sœurs, jusqu'à nouvel ordre, sont propriétaires des biens matériels que leur famille les lègue. Et Mère Marie-Camille de Soicourt se retrouve avec une immense fortune à sa disposition. Ni une ni deux, elle s'en sert clandestinement, après avoir regroupé un petit groupe de femmes à Versailles, pour reconstruire matériellement le Carmel de France. Alors c'est un petit bout de femme qui n'était pas très haut, mais qui était très tonique, qui était très tenace, et qui aura tout le monde à l'usure, y compris l'empereur. Quand je vous ai dit que c'est des louves, j'exagère à peine. Puisque Napoléon fera tout pour la contrarier, puisqu'il estime que la vie contemplative, ça ne sert toujours à rien, et que, dans son esprit, il fallait relever quatre ordres religieux des hospitaliers et des femmes pour tenir des pensionnats pour les jeunes filles, et le reste, on supprime. Mais la vie religieuse refleurit. Et Mère Marie-Camille Soicourt, non seulement paye de sa poche, mais soutient aussi le pape Pie VII en détention, sera exilée par Napoléon, qui admettra, parmi les rares femmes qu'il admire, alors que c'était un misogyne caractérisé, notamment outre la refondatrice de Notre-Dame de Charité, Sybille Gardel présente pourrait en parler, en parlant de Mère Marie-Camille Soicourt, en disant que si ses généraux et ses hommes les plus proches avaient la même fidélité qu'elle envers le Christ, il aurait beaucoup moins de problèmes. Mère Marie-Camille Soicourt mourra quasiment centenaire en 1849, au terme d'une longue vie à moitié aveugle, sourde, mais morte paisiblement. Et tout l'ordre du Carmel va renaître de ses ruines au fur et à mesure des années en se renforçant. La seconde moitié du XIXe siècle marque un point de bascule où les relèvements ne se font plus à partir de Carmels dispersés, mais avec de nouvelles fondations pleines et entières. Pour tout vous dire, à la veille des expulsions en 1902 et à la veille du Concile, le nombre de Carmels fondés avait doublé le nombre de monastères initial au XVIIe siècle. Et on continuait de fonder, puisque à chaque fois qu'on arrivait à 22, il fallait vider les monastères en faisant d'autres fondations. Et l'une des deux grandes gloires du Carmel de France, je pense, au XIXe siècle, est non seulement d'avoir donné des figures spirituelles majeures, Thérèse de Lisieux la première et Élisabeth de la Trinité, entre autres, mais les archives montrent qu'en fait, il y en avait énormément derrière, de femmes d'immense potentiel, des artistes, des femmes de lettres, des spirituels, des mystiques, des bâtisseuses, certains évêques diraient des enquiquineuses aussi, mais c'est pour ça qu'on les aime. Je pense à la prieure de l'évêque de Dijon qui avait dit à son évêque qu'il ne voulait pas les soutenir pendant les expulsions, qu'il ne remettrait plus les pieds dans son Carmel tant qu'il serait en fonction. Et elle a eu gain de cause. Il est parti au bout d'un an. Mais également dans le sens où le Carmel de France est aussi à l'origine de nombre de Carmels à travers le monde. Dites-vous bien que les héritiers des Carmels du Japon, en Chine, malheureusement ils ont disparu, de Corée, mais à l'époque en Chine, d'Indochine, de Thaïlande, d'Australie, des États-Unis, d'Afrique, de Terre Sainte, sont tous des Carmels de fondation française, envoyés par des Françaises à l'autre bout du monde, certaines ne parlant même pas la langue d'origine. Elles débarquent en Indochine sans parler vietnamien, et elles l'apprennent sur place. Et non seulement elles les fonderont ces Carmels, elles les porteront avec énormément de difficultés, puisque outre les difficultés habituelles de trouver des locaux, des ressources, vous avez la langue, le climat, l'hostilité caractérisée parfois aussi des gens. Et non seulement elles les fonderont, mais ces Carmels s'enracineront, et pour beaucoup sont encore vivants, encore aujourd'hui, et pleinement actifs. Donc c'est vraiment un long 19e siècle en fait, qui ne s'arrête qu'à la veille du Concile, et qui est marqué par énormément de fondations, une véritable croissance, ce qui fera du Carmel de France, je pense, l'ordre religieux le plus prestigieux de France, en tout cas en France, avec égalité avec les Chartreux.
Aujourd'hui, sœur Agnès-Marie, qu'en est-il des Carmels à travers la France? Combien y en a-t-il?
Alors, en France, il y a une cinquantaine de Carmels. Malheureusement, la démographie des Carmels fait qu'il y en a un certain nombre qui ferment chaque année, mais il en reste encore une cinquantaine. À travers le monde, il y en a 850, je crois, à peu près. Ça fait 10 000 carmélites à peu près dans le monde, dans tous les continents. Voilà. À Angers, nous, on est 17 sœurs, de 50 à 92 ans. Je pense que tout le monde écoute, là.
Vous avez donné un chiffre, enfin une donnée chiffrée tout à l'heure, à la veille de la Révolution, il y avait 110 carmélites qui avaient passé par le Carmel d'Angers. Depuis la fondation, il y en a eu combien?
Un peu plus de 200, je crois à peu près 210, quelque chose comme ça.
Vous continuez à enterrer les défuntes sous le cloître?
Alors, quand on a racheté le monastère, on nous a dit qu'on n'avait plus le droit d'enterrer sous les cloîtres parce qu'on était en ville. Donc, on a acheté une concession au cimetière de l'Ouest. Et puis, il y a quelques années, la concession étant pleine, nous en avons parlé à nos pompes funèbres qui nous ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne réenterrez pas sous vos cloîtres? Il suffit d'une autorisation préfectorale. » Donc, nous avons fait les démarches et depuis 2022, enfin, les deux sœurs qui sont mortes depuis 2022 sont enterrées sous les cloîtres. Et pour nous, c'est vraiment une joie de garder nos sœurs et de continuer cette tradition. En plus, elles sont enterrées en 1750, enfin dans ces coins-là. On a accueilli une sœur janséniste du couvent de Paris. Le couvent de Paris avait été infesté par l'hérésie janséniste et les sœurs avaient été dispersées dans différents carmels. Donc nous, on en a reçu une pendant 6 mois qui n'a pas voulu voir l'évêque au moment de sa mort et renoncer à son hérésie. Donc les consignes de l'ordre à l'époque étaient de l'enterrer sans prière dans un cloître non béni. Donc on sait à peu près où elle était enterrée et c'est dans ce cloître qu'on a repris qu'on a enterré nos deux sœurs en 2022-2023. Donc on a fait bénir le cloître et on se dit, cette pauvre sœur qui attend sa résurrection depuis tant de temps, là maintenant ça y est, elle est dans un cloître béni avec des sœurs.
Merci. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on donne la parole à vous qui êtes présents et présentes ce soir, si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants ou à sœur Charles-Marie, n'hésitez pas. Les micros sont là à votre disposition.
Merci. Oui, merci pour tous ces éléments très intéressants. J'avais juste une toute petite question. Vous avez employé le terme qu'on entend souvent de déchausser. D'où vient-il?
Déchausser, il me semble que c'est... Alors, si je ne dis pas de bêtises, et je dis ça sous la garde de nos sœurs qui sont présentes, je crois que c'est au moment de la réforme que Thérèse d'Avila, au départ, a voulu marquer la pauvreté retrouvée du Carmel, puisque l'un des points fondamentaux de la réforme du Carmel au XVIe était que celui-ci avait gagné en trop de richesses, avait perdu cette pauvreté initiale des pères. Et donc Thérèse d'Avila, en fondant le couvent de l'Incarnation à Avila en 1562, avait demandé à ses filles de marcher pieds nus, donc déchaussées. Sauf qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez pas traverser l'Espagne de droite à gauche, de haut en bas, du nord au sud, pendant les 20 prochaines années, sans avoir des gros problèmes aux pieds. Tout le monde n'est pas François d'Assise. Et donc, avec le temps, on s'est dit, bon, on mettra des alpargates, qui sont aujourd'hui des sandales, mais l'idée des chaussées est restée dans le sens où cette nouvelle branche du Carmel garde cette idée de vie pauvre, simple, humble, telle que les pères fondateurs, je dirais, l'ont vécu en Terre Sainte.
Ça s'inscrit dans un mouvement où il y a aussi des Clarisses des Chaussées en Espagne à la même époque. En fait, il y avait tout un retour à la pauvreté, à une vie plus simple. Et donc, c'est le terme qui caractérisait ce mouvement.
Oui, et il y a même aussi les Augustins des Chaussées. Les Augustins, maintenant, avec le pape Léon XIV, tout le monde sait ce qu'est un Augustin. Et donc, on a des églises, d'anciennes églises en France, qui sont celles des Augustins des Chaussées. Voilà. Alors, ils étaient en sandales, effectivement.
Une autre question ?
Est-ce que vous avez aussi la même histoire de nos frères Carmes qui sont juste à côté ? Est-ce que c'est parallèle ou pas du tout ?
Alors, les frères Carmes qui étaient juste à côté étaient des frères de la première branche, donc non réformés par Sainte Thérèse d'Avila. Hein, c'était un peu un défi parce que au moment où Sainte Thérèse d'Avila a réformé le Carmel, enfin a fondé des Carmels réformés, sous la règle primitive, il y a eu une immense bataille entre les frères chaussés et les frères déchaussés, les carmélites chaussés et les carmélites déchaussés. Tout ça s'est très évangéliquement battu. Mais ça dure longtemps, ces choses-là. Ça dure très très longtemps. Et en fait, qu'on soit capable de vivre, nous, à côté deux frères chaussés, c'était quand même pas anodin, en fait. En fait, on s'est très très bien entendu. Mais eux sont de la première branche. En fait, il y a eu un moment, mais ça n'a pas duré très longtemps, un carmel de frères déchaux ou déchaussés à La Plesse. C'est maintenant une maison de retraite. Je ne sais pas où c'était, mais il y a eu qui a dû fermer dans les années 70.
Il faut aussi savoir que la branche non réformée de l'ordre en France avait connu ses heures de gloire au XVe siècle avec l'action de Jean Sauret. En fait, la réforme de Thérèse d'Avila intervenait après plusieurs mouvements de réforme qui avaient tous cette caractéristique majeure et très catholique de ne s'être jamais bien passé dans une totale unanimité. Les grands carmes, comme on les appelle, ont tous disparu pendant la Révolution. Leur retour a été extrêmement tardif. Je crois que c'est seconde moitié du XXe siècle, 1989 pour la France. Et de la même manière que les carmélites chaussées, donc non réformées par Thérèse d'Avila, qui étaient présentes notamment en Bretagne et peut-être en Touraine aussi, elles aussi ont disparu à la Révolution et pour le coup n'ont jamais été rétablies en France. Pour les carmes chaussées, ça peut s'expliquer par le fait que là où l'État fermait plus facilement les yeux sur les congrégations féminines contemplatives, les congrégations masculines, elles, ont fait l'objet d'une surveillance plus accrue et, d'obstacles législatifs beaucoup plus marqués. En fait, quand on faisait des expulsions, on commençait toujours par les hommes, et puis après, on attaquait les femmes ensuite, parce que c'est toujours plus difficile d'expulser des femmes.
Jean Sauret, que Yann vient de citer, est mort à Angers, par hasard, un petit peu, mais il est mort au couvent d'Angers, qui se trouvait sans doute quai des Carmes, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et il est originaire de Caen.
D'autres questions ?
Ma sœur, vous disiez que lors de la deuxième fondation en 1850, il y a eu le rachat du coup ici du couvent en 1855. Mais vous parliez d'une très grande pauvreté. Alors, question simple, d'où venait l'argent ? Et on a l'impression que quand il y en a besoin, il y en a toujours. Donc
La providence.
Je ne saurais pas trop vous répondre. Pour acheter le couvent ici, elles ont vendu le prieuré qu'elles avaient acheté la cour Saint-Lô, et par un concours de circonstances assez providentiel, les 70 000 euros de vente de la cour Saint-Lô ont payé les 70 000 euros francs, oui pardon, 70 000 francs du monastère. Mère Séraphine devait être assez dure en affaires parce que le prix au départ était de 190 000 euros, francs. Et elle a réussi parce qu'il y a eu la gare qui devait passer dans le coin, finalement, était ailleurs, du coup, elle a fait baisser le prix. Enfin, finalement, elle a réussi à faire baisser le prix à 70 000 euros. Francs. Francs. Mais effectivement, d'où venait ? Sans doute d'héritage. Je pense que ça venait d'héritage, de dot, des sœurs, d'héritage des familles. Alors, ce qui m'a beaucoup étonné quand on a refait, quand on a écrit ce petit livret, c'est que Sainte Thérèse d'Avila insistait beaucoup sur le fait qu'on n'avait pas le droit d'avoir des rentes. On devait vivre de notre travail et des dons. Et or, en fait, à la Révolution, quand les sœurs sont expulsées, on s'aperçoit qu'elles avaient beaucoup de fermes. Enfin, elles avaient une quinzaine de fermes, de métairies, qui leur rapportaient de l'argent. En fait, et c'était des héritages de leur famille. Donc je pense que c'est ça. Il y a dû y avoir quelques familles fortunées qui ont permis.
Aujourd'hui, de quoi vivez-vous, si pas indiscret, ma sœur ?
Aujourd'hui, on a deux sources principales de revenus. D'abord, la fabrication des hosties. Pour tout notre diocèse, on fournit une grande partie du diocèse de Rennes, de Luçon, un peu en région parisienne, là, côté de Nantes aussi, Poitiers, là on a récupéré Poitiers, Poitiers-Tours. Et puis les retraites des sœurs, puisqu'on cotise, on cotise à la caisse, pas à la sécu, mais à la sécu des cultes, la CAVIMAC, et donc on a une petite retraite à l'âge de la retraite.
Aussi ajouter un complément aux explications d'Agnès Marie sur leur rachat. La législation française n'a rétabli la reconnaissance de la plupart des monastères que dans les années 60. Ce qui fait que jusqu'aux années 20 et surtout aux années 50, les carmélites, comme beaucoup d'ordres religieux, faisaient des vœux simples. Avec sa nuance dans le droit de l'Église, qu'en faisant des vœux simples, elles gardaient leur propriété mobilière. Ce qui fait que, en fait, quand leur famille, leurs parents mouraient ou des membres de la famille mouraient, elles recevaient en legs les biens qui étaient mis à la communauté, souvent vendus, et ce qui pouvait assurer une source de financement ponctuelle ou plus ou moins longue. C'était vraiment une spécificité que le Carmel de France avait gardée vraiment en France pour contourner justement toute la législation anticléricale.
À Angers, je crois que c'est en 1937 qu'on a rétabli les vœux solennels, donc l'interdiction pour nous d'avoir tout bien de quelque nature qu'il soit en propriété.
Une dernière question peut-être ? Là, j'en pose une sur Agnès Marie. Il y a une exposition qui est visible encore pendant quelques mois, et même pendant toute l'année 2026. Si vous aviez à la vendre cette expo, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant à voir ?
Je remercierai d'abord Catherine et Jean-Yves Le Sœur qui sont là, qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés à faire cette petite exposition. Donc, on a voulu mettre en image notre histoire et notre vie. Donc elle est dans il y en a une partie dans le couloir et une partie dans le parloir qui est dans le bâtiment en face. Voilà, ça c'est quelque chose qui nous a, on a beaucoup, beaucoup travaillé à cette petite exposition. Ça nous a donné beaucoup de joie de découvrir et de mettre de vouloir traduire par des objets ce qu'est notre histoire en fait. Et pour nous, c'est on est dans nos bâtiments d'origine. Pour nous, c'est une grâce extraordinaire, comme un legs qu'on reçoit de nos devancières pour le transmettre. Et c'est une manière de vous le faire partager, en fait, de vous le partager.
Merci. Peut-être que sœur Charlotte-Marie voudra nous dire un mot. Avant qu'elle ne reprenne la parole, je voulais vous dire simplement, à titre personnel, tout jeune journaliste, j'ai assisté aux cérémonies du 350e anniversaire du Carmel. J'étais venu, j'avais fait des photos, et je ne suis pas sûr d'être là dans 50 ans. Voilà.
On vous le souhaite.
Merci beaucoup Yves et puis chacun de nos trois intervenants. C'était très intéressant, enfin je ne sais pas ce que vous avez trouvé, mais pour nous c'était toujours, c'est toujours passionnant de reprendre notre histoire et en ce moment on est en train de relire nos chroniques, voilà, on a entrepris de reprendre toute l'histoire du monastère, donc pendant les repas que nous avons en silence, une sœur fait la lecture des chroniques. Et c'est très très intéressant et très émouvant d'évoquer toutes ces figures qui nous ont précédées. Voilà. Donc merci de les avoir fait vivre pour nous ce soir. Merci à vous d'être venus aussi. Et puis l'année des 400 ans continue. Voilà, donc maintenant la prochaine proposition, ce sera pour les étudiantes et jeunes professionnels, le week-end des 29 et 30 novembre, un week-end sur le discernement. Et puis après, une retraite avec Saint Jean de la Croix, 15, 16 et 17 décembre, à 20h30, de 20h30 à 21h30, avec frère Didier-Marie Gollet, un spécialiste des saints du Carmel, un carme de Paris. Voilà. Et puis la grande date, ce sera le 17 janvier, enfin 16, 17, 18 janvier. Le 16 janvier, on aura une veillée de prière en action de grâce. Le 17 janvier, une messe présidée par notre évêque. Et le 18 janvier, un concert par le chœur Notre-Dame des Eaux. Voilà, donc c'est 3 jours de fête pour marquer le jour J du 18 janvier, date de notre fondation. Voilà. En tout cas, merci de vous réjouir avec nous, c'est ça qui nous fait plaisir. Merci à vous.